Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour et bienvenue dans Ici l'Europe sur France 24 et RFI. En cette semaine de Forum de la paix à Paris, où les leaders mondiaux dialoguent sur des solutions pour un futur multilatéral plus apaisé, nous recevons un Premier ministre des Balkans, Edi Rama, qui dirige l'Albanie, un pays de 2 800 000 habitants, qui attend avec impatience l'ouverture effective de ses négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Bonjour Monsieur Rama, en duplex depuis Tirana.
Bonjour.
Dans une première vie, vous avez été basketteur, artiste à Paris. Vous avez étudié les beaux-arts et où vous choisissez de vivre jusqu'à ce que le virus de la politique vous rattrape. C'était en 1998, retour au bercail avec un portefeuille de ministre. En 2000, vous devenez maire de la capitale, Tirana. Vous êtes membre du Parti socialiste. Sur la liste Alliance pour une Albanie européenne, vous remportez les élections législatives en 2013. Cela fait donc maintenant 8 ans que vous dirigez le gouvernement albanais dans un climat politique toujours très tendu. La candidature de votre pays à l'adhésion a été acceptée en 2014 par l'Union européenne et ce dossier reste l'une de vos priorités.
Alors, vous êtes au même niveau d'intégration que votre voisin, la Macédoine du Nord, et vous attendez avec impatience l'ouverture effective des négociations d'adhésion, très importantes symboliquement et financièrement. Mais elles sont toujours bloquées. Est-ce que vous accusez la Bulgarie, qui est en pleine crise politique, de bloquer tout finalement ?
Oui, on est dans une sorte de situation assez absurde, pour dire la vérité, parce que l'Albanie, elle est comme un dommage collatéral d'une situation conflictuelle entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Après avoir eu le feu vert, pas seulement de la Commission, mais aussi du Conseil européen, voilà, la Bulgarie a sorti de sa poche des exigences de nature historique et identitaire vers la Macédoine du Nord. Et le processus reste bloqué parce que, comme vous le savez, le Conseil européen est facilement bloquable avec une seule veto d'un seul pays.
Il faut donc l'unanimité, c'est bien ça, au Conseil européen pour que votre dossier puisse progresser. Alors, Paris est aujourd'hui favorable à la progression de votre dossier, mais la France l'a longtemps bloqué à cause de la criminalité, de la corruption qui minait votre pays. Alors, aujourd'hui, que vous avez le soutien de grands pays européens, est-ce que vous êtes en mesure d'espérer un feu vert au Conseil européen de décembre ? Ou bien, au cours des 6 premiers mois de 2022, par exemple, sous la présidence française de l'Union européenne ?
Mais je dirais avant tout que la France a eu une position moins, disons, enthousiaste pour quelques années, qui n'était pas une position liée avec l'Albanie ou avec les problèmes de l'Albanie, mais qui était une position liée avec la vision du président français d'une nécessité d'approfondir les réformes dans l'Europe pour après aller plus vite avec l'élargissement. Et sa vision a été poussée à travers une sorte de nouvelle méthodologie d'intégration qui après a eu l'approbation de tous les autres. Mais le problème, c'est que ni la présidence française demain et ni la France, l'Allemagne et les autres aujourd'hui n'ont pas la force de bouger la Bulgarie si la Bulgarie elle-même n'accepte pas de bouger de sa position, qui est une position assez compliquée, mais qui rend le processus encore plus compliqué en mettant entre nous et l'Union européenne une question qui est nettement bilatérale entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord.
Alors parmi les freins à votre adhésion, il y a aussi la peur d'une vague migratoire albanaise. Il y a déjà 1 million d'expatriés depuis la chute du communisme il y a 30 ans. 80% des Albanais rêvent de quitter leur pays. Pourquoi, selon vous ?
Mais avant tout, Caroline, je ne sais pas comment je ne réussis pas à changer un chiffre dans les données de France 24. Nous, on n'est pas 2,8 millions, mais on est 4,2 en total. Et après, on a une partie qui est vers le million et quelques dehors, et l'autre partie qui vit ici. Deuxièmement, quelle vague migratoire? Le problème des vagues migratoires, c'est selon moi connecté avec l'avancement du processus d'intégration, mais est surtout connecté avec le contraire. Parce que le contraire, il crée des situations où après l'immigration illégale fleurit et les réseaux criminels font de l'argent. Voilà. Je ne vois pas un danger albanais pour l'Europe, loin de ça. L'Europe a pu absorber des millions et des millions et des millions et des millions d'autres au détriment, pour dire la vérité, des pays qui ont perdu beaucoup de capital humain à cause de ces mouvements de l'Est à l'Occident. Et pour dire toute la vérité, l'Europe occidentale a besoin de la main-d'œuvre que les gens qui viennent de l'Est offrent ou que les gens qui vont vers l'Europe occidentale des Balkans offrent. Il ne faut pas avoir peur de ça.
Alors, Edi Rama, dites-nous, parmi les motivations des Albanais qui souhaitent quitter leur pays pour tenter leur chance ailleurs, il y a la situation économique. Votre pays est l'un des plus pauvres d'Europe. Et puis, il y a aussi la situation de droit. C'est encore un pays où il y a beaucoup, beaucoup de corruption. On a vu récemment, dans l'actualité récente, l'arrestation du procureur général, le chef du parquet. Alors, après 8 ans au pouvoir, où en êtes-vous dans la lutte anti-corruption ?
Vous avez dit beaucoup, beaucoup de corruption. Je dirais que l'Albanie a un problème de corruption, mais l'exemple que vous avez amené, et ce n'est pas le seul, montre que la lutte contre la corruption est montée dans un autre niveau. Ça veut dire, oui, en comparaison avec la France ou avec d'autres pays de l'Union européenne, on est un pays qui a encore un problème de corruption à résoudre. Mais en comparaison avec 8 ans auparavant, il n'y a pas de comparaison. On est en train de transformer complètement notre système de la justice et on continue à faire un nettoyage exemplaire des corrompus. Et les intouchables d'hier sont plus intouchables.
Alors parlons un petit peu de votre région, les Balkans. La Serbie a fait une campagne de vaccination express avec des vaccins russes et chinois, avec qui elle entretient donc des bons rapports. Ces pays, elle se targue d'avoir vacciné 30 000 étrangers cet été. Reportage sur cette diplomatie du vaccin de Belgrade, signé Laurent Rouy.
À 50 km de la frontière, la ville de Tuzla en Bosnie. Ici, beaucoup d'habitants se sont fait vacciner en Serbie, qui a décidé en juin d'autoriser la vaccination des Bosniaques et des Macédoniens. Une opportunité inespérée, saisie par Amer, étudiant en médecine.
Nous, les étudiants, avons décidé d'essayer de se faire vacciner dans le pays voisin, la Serbie. L'un de nous a contacté le ministère serbe de la Santé et nous avons eu une réponse en 24 heures. Et ils nous ont invités à venir se faire vacciner.
La Serbie donne le choix à sa population, comme aux étrangers, entre le vaccin chinois, utilisé dans plus de la moitié des cas mais non reconnu dans l'Union européenne, le Pfizer, qui arrive en deuxième position avec un tiers des vaccinés, puis le Sputnik et l'AstraZeneca. Un mix vaccinal qui témoigne de la proximité géopolitique du président Aleksandar Vučić avec la Russie et la Chine. Les vaccinations massives avaient commencé dès janvier en Serbie avant de s'élargir au printemps aux pays voisins. 40 000 habitants des Balkans se sont fait vacciner en Serbie, qui a aussi donné 130 000 doses à la Bosnie, la Macédoine du Nord et au Monténégro. Le pays a aussi donné 600 000 doses en Afrique et en Asie par l'entremise du programme COVAX. Malgré cela, il fait face à une recrudescence des cas. La ville de Belgrade a fait rouvrir des centres de vaccination dans les centres commerciaux. Le taux de vaccination en Serbie, 50%, n'est pas suffisant. Une partie de la population reste perméable aux arguments des antivax.
Alors, Monsieur le Premier ministre d'Albanie, chez vous, 40%, encore moins donc qu'en Serbie, de vaccinés. Est-ce que vous estimez avoir été suffisamment aidé par les Européens pour cette campagne vaccinale, ou est-ce que vous avez dû, comme les Serbes, vous tourner d'une part vers eux, peut-être vers des alternatives russes ou chinoises ?
On a eu un premier moment très difficile avec l'Union européenne parce que nous tous, dans les Balkans occidentaux, on a été coupés de la première distribution des vaccins en Europe. C'était vraiment, vraiment difficile à voir qu'autour de nous, les gens commençaient à se vacciner. Dans le même temps que nous, on ne pouvait même pas vacciner les infirmières et les médecins. On a pu résoudre ça en ouvrant vers d'autres alternatives. Et voilà, on est maintenant dans une situation où ce n'est pas le manque des vaccins, mais c'est la bataille avec les théories conspiratives, avec les absurdités de l'Internet qu'il faut gagner. C'est difficile.
Alors, vous avez effectivement reçu à Tirana le ministre chinois des Affaires étrangères. En quoi est-ce que votre pays a besoin effectivement de l'aide chinoise plus globalement, et est-ce que c'est compatible avec aussi vos très bonnes relations avec les États-Unis, la Turquie aussi de Recep Tayyip Erdogan? On voit bien qu'il y a un enjeu géopolitique important pour toutes ces puissances dans votre région, les Balkans.
Mais non, le ministre d'Affaires étrangères chinois a visité la région et est venu en Albanie. Les relations entre l'Albanie et la Chine sont des bonnes relations, mais je dois vous dire que dans le cadre de la coopération de la Chine avec le soi-dit groupe de pays de l'Europe centrale et orientale, les pays ex-communistes, le format 17 plus 1, l'Albanie en a pratiquement. Ça veut dire qu'on a des bonnes relations, mais au niveau de la présence des investissements ou de l'aide chinoise, il n'y a rien de particulier à noter. Tandis que la Turquie, c'est un partenaire stratégique de l'Albanie, comme la Grèce et comme l'Italie. C'est un triangle très important historiquement, traditionnellement. C'est des peuples, des pays amis. Selon moi, personnellement, la Turquie n'a pas une stratégie dans les Balkans qui va dans le contraire de l'intégration des Balkans de l'Union européenne.
Même pas sur l'islamisme, sur la question de l'islam et de son modèle justement musulman.
Mais il y a rien dans cette direction. J'ai vu pas mal d'articles en disant que les mosquées fleurissaient dans les Balkans, inclus l'Albanie, mais je vous dis que depuis maintenant 30 ans, il y a une seule mosquée qui a été construite, une belle mosquée qui a été construite avec l'aide de la communauté musulmane turque. Une seule.
Edi Rama, une question sur la présence dans votre pays des réfugiés afghans, ceux qui fuient les talibans. Ils arrivent au compte-gouttes dans l'Union européenne. Leur accueil est un sujet sensible parce que ils constituent un important contingent de demandeurs d'asile, le deuxième après les Syriens. Alors l'Europe hésite, on le voit bien, à en accueillir davantage, tandis que vous avez ouvert vos frontières pour leur proposer un séjour en transit, avant qu'ils aillent vers les États-Unis, le Canada. Vous estimez aujourd'hui que l'Europe en particulier n'en fait pas assez collectivement ?
Mais je suis personne à juger les autres. Je peux parler seulement de l'Albanie. Et je parle de moi-même comme Premier ministre de l'Albanie, un pays qui a une histoire qui nous rend très fiers, un pays qui vient de loin sur une loi, la première loi commune des Albanais au Moyen-Âge, dont le premier paragraphe dit que la maison de l'Albanais, c'est du Dieu et de l'hôte, l'hôte étant celui qui frappe à la porte et auquel on doit ouvrir la porte, indépendamment de si on le connaît ou pas. Et c'est le seul pays en Europe qui a eu plus de juifs après la Seconde Guerre mondiale qu'avant, exactement parce que la maison de l'Albanais, c'est du Dieu et de l'hôte. Et alors les Juifs ont été protégés par les Albanais. Et il n'y a pas un seul cas d'un Juif qui a été consigné aux nazis. C'est un pays qui, il y a 30 ans, a dû passer à travers la même expérience que les Afghans, en quittant un enfer qui n'était pas fondé sur le fondamentalisme islamique, mais était fondé sur l'athéisme le plus pur et dur d'un régime brutal communiste. Et nous, donc, nous avons quitté, et nous avons frappé dans d'autres portes, et voilà. Et dernièrement, c'est un pays de l'OTAN. Et je trouve absolument naturel que les pays de l'OTAN, après avoir décidé de quitter l'Afghanistan, devaient ouvrir les portes, pas pour tous les Afghans qui ne sont pas heureux du retour des talibans, mais pour les Afghans, les hommes et les femmes qui ont été là pour nous, ont travaillé avec nous, ont cru dans ce que nous avons dit et dans ce que nous sommes comme une alliance des pays modernes, démocratiques et tout ça, et qui ont mis leur face dans la première ligne du changement en Afghanistan. Et alors comment les pays de l'OTAN pouvaient tourner le dos et dire « voilà, nous on y va ». Et vous pouvez rester ici et vous pouvez attendre que les talibans viennent vous assassiner ou torturer ou vous couper les mains et la tête parce que vous avez été nos collaborateurs.
Alors, on termine quand même par une petite question quand même sur votre collaboration régionale, parce que ça a longtemps été une poudrière quand même, les Balkans, hein. C'était un endroit où il y a une guerre sanglante entre notamment les membres de l'ex-Yougoslavie. Vous avez effectivement appelé un Open Balkan, un mini Schengen, pour faciliter la circulation des marchandises entre Albanie, Macédoine du Nord et Serbie, supprimer les frontières dès 2023. Mais les trois autres pays des Balkans ne peuvent pas s'y joindre en raison de ces tensions ethniques entre musulmans et chrétiens qui perdure, c'est pas totalement apaisé quand même.
Premièrement, les Balkans ouverts ou Open Balkan, comme on dit en anglais, c'est pas une initiative exclusive et c'est pas quelque chose qui vient de rien. Mais c'est une unité d'implémentation de ce qu'on appelle le processus de Berlin, où l'Allemagne, la France et d'autres pays ont été, disons, les fondateurs. Et pour implémenter les quatre libertés de l'Europe, liberté de mouvement, de capitaux, de services, de gens et de goods, comme on dit en français, maintenant ça m'échappe, on doit faire du boulot. Et pour faire ce boulot, on s'est mis ensemble. La porte est ouverte pour tous les pays des Balkans, sans précondition, mais l'idée c'est de ne pas rester victime des veto de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre qui veut pas ça, veut pas ça, veut pas ça. Nous, on veut faire pour la région quelque chose d'important pour les gens. C'est un processus difficile, oui. C'est très difficile, c'est pas facile, parce que en même temps, c'est un processus de paix. On n'a pas encore la paix définitive dans les Balkans parce qu'il y a encore des problèmes à résoudre, et surtout le problème entre la Serbie et le Kosovo, qui est un État indépendant, souverain, et qui doit être reconnu par la Serbie. Mais en même temps, il y a des leçons de prendre de l'histoire. La France nous donne un exemple extraordinaire. Ce que la France a fait avec l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, c'est le chemin. C'est le chemin à suivre pour transformer un espace de guerre et de conflit et de brutalité et de problèmes innombrables pour les gens dans un espace de prospérité, de paix et de sécurité. Voilà.
Merci Eddy Rama d'avoir répondu à notre invitation. Je crois qu'effectivement vos derniers mots, c'était une bonne conclusion pour ce Forum de la paix. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'information sur nos antennes.
L'épopée des musiques noires.